Bonjour, Jean-Claude Issaly, bénévole et administrateur de la LEPO, délégation territoriale Aveyron. Bienvenue pour cette nouvelle émission à tire d'aile, donc l'émission de la LEPO Aveyron. Donc, lors de la dernière émission, je vous ai parlé de la haie, de ses fonctionnalités et de la très grande utilité de la haie, compatible et favorable donc à la production agricole. Aujourd'hui, donc pour aller un petit peu plus loin, on va parler de comment implanter une haie. Alors, on définit une haie comme étant un ensemble d'arbres et d'arbustes organisés sur un même linéaire, donc sur une même ligne. Les haies champêtres sont donc associées à l'activité agricole. Elles sont composées d'espèces locales, d'espèces adaptées au milieu et qui savent cohabiter ensemble sans être envahissantes. Les haies en place dans nos paysages ont été plantées par l'homme pour répondre à divers besoins qui ont évolué au fil des siècles, pour clôturer des parcelles, les délimiter, pour produire du bois, pour produire des fruits, pour abriter, pour éventuellement ralentir les coulées d'eau, les ruissellements. Voilà. Donc le profil des haies. Les haies peuvent être issues de plantations ou de repousse spontanée. C'est vrai que si on laisse un terrain sans couper l'herbe pendant quelques années, on va avoir tout un tas de petits rejets qui apparaissent et on peut créer ainsi des haies spontanées. On peut choisir aussi les arbustes et les espèces qu'on laisse grandir. Alors la largeur d'une haie peut être très variable. Elle va de quelques dizaines de centimètres jusqu'à plusieurs mètres. Mais ce qui est vraiment souhaitable et recommandé, c'est d'avoir 2 mètres de largeur pour que les végétaux puissent se développer correctement et aussi se renouveler. La taille d'entretien qu'on peut réaliser sur les haies peut les caractériser. Par exemple, une haie libre, c'est une haie qu'on ne taille pas, qu'on laisse faire, une haie de plein vent. Une haie au carré, c'est une haie qu'on taille sur 3 faces, c'est-à-dire les deux côtés et le dessus. Mais bien sûr, il y a tout ce qui est intermédiaire. On peut ne tailler qu'un côté, on peut ne tailler que les deux côtés et ne pas aller par le dessus, etc. Quoi. Suivant ce que l'on veut obtenir. Enfin, le lieu ou la fonction qu'on leur attribue peuvent également les définir. On parle de ripisylve pour une haie qui est en bord de cours d'eau. On parle de haie brise-vent, on parle de haie anti-érosive, suivant l'orientation sur le terrain et les pentes. On parle de haies mellifères parce qu'on va privilégier les espèces qui favorisent dont la récolte de nectar ou de pollen pour les abeilles. On parle de corridor végétal, de corridor vert. On parle de haies cynégétiques parce qu'elles peuvent être aménagées un petit peu plus pour favoriser la présence du gibier. On peut parler de haies pare-neige. Donc il y a pas mal de fonctions qui sont attribués aux haies. Voilà, mais si on peut effectivement laisser se régénérer des haies ou laisser partir une haie tout simplement en ne travaillant plus le sol sur une bande, on peut aussi planter. Donc avant de planter, il faut réfléchir à comment on va implanter. Il faut anticiper un peu le développement final des végétaux. Il faut essayer de se projeter pour voir comment elle devrait être. Une haie ou un arbre implanté trop près d'un bâtiment peuvent devenir gênants. Donc ça aussi, il faut faire attention où est-ce qu'on les installe et qu'est-ce qu'on va mettre quand on va se rapprocher de bâtiments. Bon, il faut aussi connaître la législation et je vais être très bref là-dessus parce qu'on pourrait y consacrer une vraie émission, une émission toute entière. Une haie non mitoyenne doit se tenir à 50 cm de la limite de propriété, ou éventuellement à 2 mètres si la haie qu'on envisage dépasse la hauteur de 2 mètres. Alors il existe également une réglementation stricte concernant les plantations en bordure de route, en bordure d'établissements particuliers, non loin des lignes électriques. Voilà, il y a toute une réglementation qu'il faut éventuellement éplucher si on est en limite de propriété. pensez à relier aussi cette nouvelle haie avec des haies ou des bosquets existants afin d'offrir des continuités végétales, donc des corridors pour la faune. Pensez aussi à l'orientation par rapport au vent dominant, par rapport à la pente, pour mieux capter les eaux ruisselantes, pour limiter l'érosion, etc. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut essayer d'anticiper. Donc la composition de la haie dépend du rôle qu'on souhaite lui assigner. Des végétaux bas pour une clôture basse, des arbustes et des arbres pour une haie brise-vent, ou encore, bien sûr, de nombreuses possibilités intermédiaires, avec ou sans arbres, ou avec des arbres très espacés, etc. Donc là, chacun compose un peu en fonction du rôle qu'il veut assigner à sa haie. En fait, les essences qu'on va utiliser, les espèces qu'on va utiliser, doivent être des espèces locales, des espèces adaptées au milieu. Donc, il y a longtemps qu'on utilise et qui sont dans notre patrimoine végétal, quoi. Bon, pour cela, bien sûr, il est important de tenir compte du climat, de l'exposition et de la nature du sol. Alors, la plantation. Donc, ce qui est bien, c'est de préparer le sol à l'avance. Donc, normalement, on plante vers l'automne, juste avant l'hiver. Bon, il est bon de préparer le sol avant, donc de l'ameublir en profondeur. C'est vrai que c'est une étape capitale pour la réussite de la plantation. Il faut que les racines puissent bien s'implanter, bien prospecter le sol et qu'elles n'aient pas de difficultés à descendre dans le sol. Donc c'est pour ça que, pour qu'on puisse, que ces racines puissent se développer en profondeur et mieux résister à la sécheresse, il faut travailler la partie où on va planter avec une sous-soleuse, un genre de chisel ou une charrue. Bon, après, si c'est à l'échelle de petits morceaux de haie, on peut le faire au motoculteur ou avec une mini-pelle. Mais voilà, il est important de faire ce travail, si possible quelques semaines avant de planter, parce que l'alternance humectation-dessiccation va permettre à la terre de s'affiner, aux mottes de mieux s'écraser, et donc d'avoir un lit de plantation avec une structure idéale pour que les racines puissent s'implanter. Et puis, ça va aussi améliorer l'efficacité du paillage, je vais y revenir. Alors, planter. Les plants qu'on utilise normalement, qu'on va rechercher donc chez des spécialistes, ont entre 1 et 3 ans. Le mieux, c'est d'utiliser des jeunes plants à racines nues. Ça permet une meilleure adaptation, une adaptation plus rapide au terrain d'implantation. Ça limite les travaux d'entretien nécessaires à leur reprise. Pas besoin non plus de tuteurer les arbres. Leurs racines poussent en même temps que la partie aérienne et garantissent un bon ancrage et une bonne tenue. À la réception des plants, ils doivent être conservés dans un endroit humide et frais. Si la plantation n'est pas prévue le jour même, il vaut mieux les mettre en jauge. Donc les mettre en jauge, c'est les mettre dans un mélange de sable et de terre, ou dans de la terre, afin que les racines ne sèchent pas ni ne gèlent pas éventuellement. Donc quand on sait qu'on ne va pas planter de suite, on peut faire une jauge, c'est-à-dire on peut creuser sur environ 30 cm de profondeur, 30 à 50 cm de large, et sur une longueur variable selon le nombre de plants que l'on a à conserver. Il est bon aussi de séparer les plants en trois catégories. Les basses tiges, ce qui va constituer la partie la plus basse de la haie, les arbustes et puis les arbres. Donc ensuite, les trier par espèce. Donc les mettre dans la jauge en biais, en veillant à laisser apparentes les étiquettes. Hein, normalement, quand vous achetez, tout doit être étiqueté. Ainsi, on fait des lots par espèce, qu'on sépare avec un espace. On peut aussi orienter des plants d'un côté et des plants de l'autre côté, pour bien les différencier. Ensuite, on recouvre les racines des plants de terre et on tasse pour que les racines soient bien en contact avec la terre. On peut arroser si on fait ça en période très sèche, et donc avec de la terre très sèche. Quand on fait la jauge à la veille de la plantation, on peut reproduire cette procédure dans la bennette arrière de son tracteur, ou si on a un tracteur, à disposition. Bon, souvent, quand on a un tracteur, c'est qu'on plante une bonne longueur. Mais c'est effectivement très pratique de pouvoir tout porter sur la bénette arrière du tracteur et ainsi suivre tout le plan de plantation. On peut aussi prévoir de pailler, donc avec de l'écorce, avec des toiles biodégradables, avec des copeaux. Le paillage est essentiel pour limiter la pousse de l'herbe qui va concurrencer les plants quand ils sont petits. Et puis le paillage permet de garder l'humidité au sol. La tenue du paillage utilisé doit être supérieure à 2 ans. Si on met une toile, dans ce cas c'est avant de planter, il faut faire une tranchée en bordure de la haie, bloquer la toile dans la tranchée et remblayer. Et donc bien bloquer la bâche ou la toile. Ceci bien sûr de chaque côté de la haie et sur une largeur suffisante pour limiter l'implantation de l'herbe qui concurrencerait la haie. Alors dans ce cas-là, on plante ensuite en perçant la toile et une fois qu'on a planté, on rabat le mieux possible à la base du plan les morceaux de la toile pour qu'on laisse le minimum de terre nue apparente. Bon, pour tenir cette bâche en place, on peut mettre de la terre ou mieux mettre des cailloux. Ensuite, s'il y a des animaux qui doivent pâturer dans le secteur, il est bon de clôturer pour que la haie ne puisse pas être broutée par les bovins, les caprins, les ovins éventuellement. Et ça, il faut bien avoir 1 mètre de marge de chaque côté de la haie. Après, il existe aussi des protections individuelles qui sont des genres de tuyaux, de gaines. Bon, c'est surtout utilisé contre les dégâts des lapins et des chevreuils. Donc, quand on a implanté une haie, on peut se poser la question, faut-il arroser ? Alors, normalement, on n'arrose pas si on a fait la plantation fin d'automne, début d'hiver. Mais si on a planté un peu tard en saison, en mars-avril, et que par la suite il fasse relativement sec, 1 ou 2 passages dans l'été peuvent s'avérer suffisants. En versant une bonne réserve d'eau au pied de chaque plant. Il n'est pas très bon d'arroser parce que si on arrose trop fréquemment, on va favoriser un enracinement trop superficiel et donc les racines ne vont pas aller assez en profondeur. Ensuite, les 2 premières années, ou au moins la première année, il faut désherber mécaniquement pour limiter la concurrence exercée par les plantes spontanées, les ronces, les genêts, les chardons, les graminées, toutes les herbes qui peuvent pousser. Donc, effectivement, il y a une course à l'eau et à la lumière, donc pour favoriser l'implantation de sa haie, il vaut mieux désherber. Bon, si on a mis une toile, une bâche, bon, ce travail n'a pas besoin d'être fait, normalement ça ne pousse pas si c'est bien fait. Voilà, donc il faut bien dégager le pied des plants et les bords de paillage. Une fois que les plants dépassent les autres herbes naturelles, on peut accepter le développement d'une végétation spontanée qui viendra non plus concurrencer, mais au contraire étoffer et enrichir la haie. C'est vrai qu'une fois que les arbustes sont bien démarrés, les herbes annuelles qui poussent peuvent effectivement, je dirais, épaissir la haie. Et on peut aussi remplacer les plants manquants afin d'éviter les trous dans la haie parce que, bon, malencontreusement, de toute façon, quand on fait une plantation, il y a toujours un petit pourcentage d'échecs, de plantes qui ne reprennent pas. Ensuite, on peut tailler aussi sur les 2 premières années, notamment en 2e année, parce que, bon, même si la taille n'est pas obligatoire, elle n'est pas forcément utile aux végétaux, mais elle peut permettre donc à l'herbatant d'avoir des plants plus étoffés à la base. Donc on appelle ça faire du recépage. Parce que sinon, ils partent en hauteur et ils peuvent être transparents un peu à leur base, quoi. Alors on recommande de planter des végétaux avec des racines nues. Donc ça, premier point, quand on reçoit tous ces plants, c'est de bien séparer les végétaux à planter, si cela n'est pas déjà fait, hein, souvent c'est déjà fait. Les espèces buissonnantes, les espèces qui vont occuper les parties basses de la haie, donc c'est une catégorie. Une autre catégorie, ce sont les arbustes, et la troisième catégorie, ce sont les arbres. Alors, quand on plante, on raccourcit les racines. C'est-à-dire qu'on va couper avec un sécateur qui coupe bien, pour avoir des coupes bien nettes. En fait, on équilibre la partie végétative qui va être dans le sol avec la partie végétative qui reste aérienne. De plus, une coupe nette au sécateur des racines va permettre une meilleure cicatrisation des racines qui ont pu être abîmées lors de leur arrachage, soit elles ont été arrachées, dans le sol, soit elles ont été enlevées de la jauge. Et quand on les enlève de la jauge, des fois, ben, le chevelu, ce sont les racines les plus fines, elles se cassent très facilement, même dans la jauge. Donc il est préférable de les recouper proprement. Tout le temps de la plantation, il faut maintenir les plants à l'abri du soleil et du vent. Il faut les empêcher de sécher. On peut les laisser dans un sac, bien sûr par catégorie, ou on peut les mettre dans du pralin. Bon, le pralin, je vais vous en reparler. Pour les arbustes et les espèces qui sont basses, buissonnantes, il faut recouper les tiges toutes à la même hauteur, au même niveau. Souvent, on a peur un peu de les rabattre, mais donc ça, la plantation, c'est important. Donc, on coupe les racines, mais on coupe aussi les tiges. Ainsi, les repousses seront plus nombreuses et ces plants vont être plus épais, mieux fournis à la base. Sinon, ils partent en hauteur en étant donc dégarnis, comme je le disais il y a quelques minutes. Quand on plante, il faut creuser un trou assez profond et assez large pour bien répartir les racines, qu'elles ne soient pas toutes compressées ensemble et qu'elles exploitent bien la terre autour des racines. Les racines doivent être aussi dirigées vers le bas pour bien exploiter la terre sur toute la hauteur du trou et pouvoir facilement s'enfoncer encore plus profondément. C'est le travail qu'on aura fait en amont avec le chisel ou avec donc des outils qui permettent de fendre le sol assez bas. Donc les racines vont s'implanter plus facilement et descendre plus facilement. Donc ensuite, on met de la terre sur les racines. On fait attention de mettre de la terre fine au contact des racines. On peut mettre le plant un peu plus bas que ce que l'on veut au final pour pouvoir légèrement tirer dessus sur le plant tant qu'on n'a pas tassé la terre, pour le soulever de quelques centimètres et ainsi remettre les bouts de racines qui seraient éventuellement pliés dans le bon sens pour qu'ils puissent vraiment partir en profondeur. Ensuite, on tasse bien pour que les racines soient bien en contact avec la terre. Ce qui est bien aussi pour augmenter les chances de réussite de l'implantation de la haie, c'est de praliner les racines. Alors donc praliner, ça veut dire qu'il faut faire un pralin. Qu'est-ce que c'est qu'un pralin ? Pour faire un pralin, il faut, c'est une des recettes assez classiques, un tiers de bouse de vache, un tiers d'eau, un tiers de terreau. Bon, certains font le pralin avec moitié terreau, moitié eau. Quand on prépare ces plants, quand on les a triés par catégorie, si ce n'est pas déjà fait, on les met dans ce pralin qui est déposé dans un grand seau. Ainsi, les racines ne seront pas au contact de l'air et elles pourront se nourrir en absorbant les nutriments qui sont dans le pralin. Quand on n'a pas de grande quantité de plants à implanter, on peut mettre un tout petit peu de pralin dans chaque trou de plantation. Alors, des différentes essences qu'on peut planter. Donc, je vais commencer par les arbustes. Hein. Après, sachant que certains arbustes, si on ne les taille pas du tout, ça peut devenir quasiment des arbres. Hein. Donc, je pensais à l'alisier, à la melanchier, à l'aubépine, à la bourdaine, au chèvrefeuille, au cognassier, au cornouiller, cornouiller mâle, cornouiller sanguin, à l'églantier, au fusain d'Europe, au gréseillier sauvage, au néflier, au prunelier. Voilà, vous en trouverez pas mal de sortes. Et les troènes, les viornes, les sureaux aussi, hein, qui sont des arbustes qui produisent des baies. Tout ça, c'est très intéressant pour les oiseaux. Tous ces arbustes, s'ils sont bien rabattus, recépés, ils vont s'épaissir à la base. Ils vont permettre à de nombreuses plantes herbacées de se développer au-dessous. Et même ces plantes herbacées pourront même s'appuyer pour se développer. Je pensais à la brionne dioïque, au tamier, qu'on appelle le répounsou, aux ronces, aux gaillets, aux orties. Voilà, tout ça, c'est très, très important. Pour les arbres, on peut mettre tous les arbres qu'on rencontre un peu chez nous, hein, les aulnes, les bouleaux, du charme, du châtaignier, des chênes, hein, sachant qu'on a pas mal d'espèces de chênes, le chêne sessile, le chêne pédonculé, le chêne pubescent, le chêne rouge. On peut mettre du cognassier, on peut mettre des érables, du figuier, des frênes, du hêtre, du houx, du merisier, du noyer, de l'orme, du peuplier, voire du pin sylvestre, du poirier sauvage, du pommier sauvage, du robinier faux acacia, etc. Du tilleul aussi, qui est très intéressant, qui est très mellifère, hein, du tremble. On peut aussi insérer des fruitiers cultivés, autres que les sauvages. On peut aussi insérer des plantes mellifères, un peu communes chez nous, ou des plantes qui produisent des baies appréciées par les oiseaux. Bon, tout ça, vous pouvez le voir avec les conseillers de l'association Arbres et Paysages. Hein, on en a une association dans chacun de nos départements. Ou auprès des jardineries que vous connaissez ou des passionnés de plantes. Pour favoriser la faune sauvage, il ne faut pas hésiter à laisser ce que l'on a taillé en tas entre les arbustes. Cela va procurer des abris à toute une série d'insectes, de micro-mammifères. Au départ, quand la haie est toute jeune, on peut amener ses tailles depuis son jardin ou d'ailleurs, hein, en les récupérant. Mais il faut veiller à les installer de façon à ne pas étouffer les plants et au contraire les protéger. Les arbres et arbustes étant trop petits ou trop frêles pour supporter des nichoirs, vous pouvez installer des nichoirs sur des poteaux ou des piquets à 2 ou 3 mètres de hauteur. Vous pouvez aussi planter des poteaux avec un petit support horizontal tout en haut pour permettre aux rapaces diurnes et nocturnes de se poster et d'être ainsi à l'affût des petits rongeurs. Vous pouvez aussi installer des nichoirs sur des grands arbres qui pourraient se trouver non loin de la haie que vous implantez. Et surtout, vous devez, je dirais, protéger et entretenir les haies que vous avez déjà en place, combler les vides qu'il peut y avoir dans le linéaire de ces haies, de façon à avoir la continuité végétale, à avoir ce corridor vert qui permet aux différents animaux de se déplacer plus facilement, de façon plus discrète et plus sécurisante pour eux. Il faut penser aussi à laisser des troncs d'arbres morts, qu'ils soient debout ou qu'ils soient couchés dans la haie. Ils sont extrêmement utiles à toute une faune, des insectes, des micro-mammifères, des lézards, etc. Mais aussi aux champignons qui décomposent les bois et qui vont favoriser la fabrication de l'humus. On peut aussi mettre des abris à hérissons et un gros tas de branchages, ça peut faire. Mais on peut aussi mettre une caisse retournée avec une ouverture sur un côté et mettre des branchages dessus, ça fait vraiment d'excellents abris pour les hérissons. Et puis, dernière précision, il ne faut pas tailler les haies. Il ne faut pas faire de l'entretien des haies entre la mi-mars et la mi-août pour permettre justement aux oiseaux de nidifier et à bien d'autres espèces de faune sauvage de se reproduire. Ainsi s'achève cette émission. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine.
CFM. CFM Villefranche.